Moi, c'est André Dimbouzmaï au Kassai Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine des chances citoyens sur Radio Okapi. L'état d'exécution du projet Star Est en RDC est marqué par une dynamique contrastée, des avancées notables dans certaines zones et un blocage préoccupant dans d'autres, notamment au nord Kivu et au sud Kivu en raison de l'insécurité persistante liée à l'occupation des territoires par les rebelles du M23. Financé par la Banque mondiale, le projet pour la stabilisation et le relèvement de l'Est de la RDC en sigle Star Est a été lancé au mois de novembre 2023 et va prendre fin au mois de décembre 2027. Ce projet concerne trois provinces de l'Est du pays, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Il vise notamment à améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques communautaires de base résiliente au climat, renforcer la réinsertion socio-économique et la résilience des individus associés aux groupes armés dans leur communauté et soutenir les membres vulnérables de la communauté, ainsi que renforcer la capacité des administrations dans les provinces sélectionnées. Les bénéficiaires sont donc les populations vulnérables affectées par la fragilité, les conflits, les violences, ainsi que le choc lié au climat, les administrations provinciales et les entités territoriales décentralisées des provinces d'intervention. Ce projet qui, selon sa coordinatrice, devait être exécuté dans un premier temps dans les zones à moins de risques sécuritaires, en attendant notamment la libération des espaces aujourd'hui contrôlés par les rebelles M23, qui est confronté aujourd'hui justement dans ces territoires à l'arrêt, particulièrement au nord Kivu et au sud Kivu depuis l'occupation de cette partie du territoire congolais. D'aucuns estiment que l'arrêt de ces projets constitue un handicap pour les bénéficiaires, qui sont en fait les populations vulnérables affectées par ces conflits armés dans l'est de la RDC. Que pensez-vous de l'impact sur l'état d'exécution du projet Star S et quel est l'impact de la position de conflits armés dans la mise en œuvre de ce projet? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux Auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux Auditeurs ou encore appeler en direct en composant zone 971-689-79. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine et Julie Fezabongonga sur la réalisation de la coordination. Mais chaque bout à bout est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux Auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Parole aux Auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci d'être nombreux à vous pencher sur la fréquence de la paix pour ce, votre magazine des chances citoyens par nos auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'évaluation de l'état d'exécution du projet Star Est dans trois provinces du pays, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Madame Brigitte Kapinga. Bonjour Madame Brigitte Kapinga.
Bonjour Monsieur Marcel.
Vous êtes coordonnatrice nationale du projet Star Est. Je l'ai dit dans mon introduction, selon sa coordinatrice que vous êtes, ce projet devait être exécuté dans un premier temps dans les zones à moins de risques sécuritaires, en attendant notamment la libération des espaces aujourd'hui contrôlés par les rebelles M23. Mais aujourd'hui, ces travaux semblent être vraiment à l'arrêt, particulièrement dans cette partie contrôlée par le rebelle M23. Alors, avant de parler de l'impact de cet arrêt, de l'exécution du projet Star S dans cette partie du pays, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler c'est quoi le projet Star S et depuis quand il a été effectivement lancé et aujourd'hui où en est-on avec ce projet?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le projet Star Est, c'est la stabilisation et relèvement à l'est du Congo, qui est un projet du gouvernement congolais avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars. Et comme le nom l'indique, ce projet vise la stabilisation et la réintégration communautaire dans l'est de la RDC. Ce projet est une réponse à toutes les préoccupations que nous avons connues depuis maintenant 3 décennies sur l'instabilité à l'est de la RDC. Et quand vous le savez, quand il y a instabilité, il y a un problème aussi de développement. Voilà pourquoi le gouvernement congolais, avec son partenaire la Banque mondiale, avait pensé de mettre en œuvre ce projet, qui est un projet d'abord, premièrement, une première expérience de décentralisation, parce que ce projet est mené au niveau des communautés directement, sans beaucoup d'ancrage au niveau des Kinshasa. Comme vous le savez, 90% des projets qui sont exécutés sont gérés au niveau de Kinshasa et mis en œuvre au niveau de la base. Mais pour ce qui concerne l'Est-Arrest, c'était la première expérience de la Banque mondiale de la décentralisation, où les projets travaillent directement avec les gouvernements provinciaux et avec les communautés locales via les CLD, via les CCP, qui est les comités consultatifs provinciaux.
Le CLD, les comités locaux de développement.
De développement, c'est ça, oui. Ainsi que les comités consultatifs provinciaux mis en place. Et toutes les actions menées sont dictées par les communautés elles-mêmes. Donc c'est une première expérience. Et comme nous venons de le dire, le projet a ses ambitions et ses objectifs principaux, qui sont d'abord d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de base des communautés vulnérables. Et ces infrastructures doivent être résistantes au climat. Deuxièmement, c'est améliorer la réintégration socio-économique des individus associés aux groupes désarmés et les communautés vulnérables. Et troisièmement, c'est renforcer les capacités des administrations dans les provinces sélectionnées. Pourquoi renforcer les administrations? Tout simplement parce qu'on a remarqué que si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes à l'Est, c'est aussi parce que les administrations n'arrivent pas à redistribuer leurs ressources locales. Et pourtant, nous le savons que l'Est du Congo regorge des ressources qui sont assez considérables. Mais il y a un problème par rapport d'abord à la mobilisation, parce que beaucoup de ressources, beaucoup de recettes qui proviennent de ces ressources naturelles sont évaporées, tout simplement parce que peut-être il y a le problème d'abord, tel que nous le savons, par rapport aux minerais. Les circuits sont toujours informels et qui ne sont pas canalisés par le gouvernement. Et les recettes qui proviennent de toutes ces ressources ne sont pas aussi redistribuées au niveau de la communauté. Voilà pourquoi le projet a pensé pouvoir renforcer la capacité de toutes ces administrations pour pouvoir les aider à pouvoir non seulement d'abord mobiliser leurs ressources correctement, et en les mobilisant, pouvoir les redistribuer par des actions de développement au niveau des communautés. Voilà les trois objectifs du projet. Et quand nous parlons ici par rapport d'abord au premier objectif, qui est d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de base, ces accès ici, nous voyons les centres de santé, nous voyons les écoles, nous voyons l'accès à l'eau potable, nous voyons aussi l'accès à l'électrification, mais à moindre coût de communautés, parce que nous utilisons les ressources renouvelables, qui sont les panneaux solaires, pour pouvoir donner de l'électricité aux communautés dans leurs infrastructures. Et cela permet aux communautés de pouvoir avoir accès à ces infrastructures, et aussi, et surtout, pouvoir arranger les routes des dessertes agricoles.
Ça, c'est important de rappeler tout cela, mais on aimerait vraiment faire à ce niveau une évaluation. Le projet a été mis en vigueur, a été lancé en 2023. Vous avez donné des précisions. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il a né déjà, qu'est-ce qui a été déjà fait depuis que le projet a été lancé, notamment dans la partie nord Kivu du pays, avant que qu'il y ait des zones occupées par les rebelles.
Ok, d'abord il faut rectifier.
Oui.
Le projet a été mis en vigueur au mois de novembre, précisément le 30 novembre 2023, mais a été lancé en août 2024.
A été lancé
en août 2024. Je m'explique.
Oui.
La mise en vigueur veut tout simplement dire que la Banque mondiale et le gouvernement congolais viennent de terminer tout le processus en amont de la mise en œuvre des activités. C'est ce qu'on appelle la mise en vigueur. C'est-à-dire, à partir de ce jour-là, le projet va démarrer. Mais comme vous le savez, il fallait d'abord qu'il y ait des recrutements du personnel. Parce que nous-mêmes, en tant que coordonnateurs, Nous sommes arrivés en janvier 2024 et on devait commencer par recruter les autres personnels pour la mise en œuvre du projet. Et c'est en août, devant son excellence le VPM en charge de l'intérieur et plusieurs autres ministres, députés nationaux et sénateurs, que le projet a été lancé. Nous sommes au mois d'août 2024. Mais vous avez posé une question très pertinente. Qu'est-ce que le projet a fait jusqu'à ces jours?
Exactement.
Parce qu'en fait, notre présence en ces lieux aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire l'évaluation.
Tout à fait.
Les projets, c'est voudrait de démarrer vraiment en trombe, comme on dit en français, sur les chapeaux de roue. On a commencé d'abord par lancer les offres sur les infrastructures socio-économiques de base. Et en ce jour, nous avons déjà 34 infrastructures, dont 18 dans l'Ituri et 16 dans le Nord Kivu, qui sont en phase de finalisation. Et je pense que le premier, d'ailleurs hier, je vous informe, monsieur le journaliste, hier nous avons déjà procédé à la réception technique de certains ouvrages tels que les écoles et les centres de santé. Et la réception définitive va intervenir à la fin du mois de septembre pour certaines. Et les tout derniers, ça sera fin octobre sur le 34. Nous avons 230 kilomètres de route de dessertes agricoles qui sont en train d'être menées en ce jour. Nous avons 3 grands bâtiments qui sont en construction. Ce sont les bâtiments administratifs qui sont en construction au niveau de Goma, au niveau de Bukavu et au niveau de Bunia, à Ituri. Ces bâtiments vont servir dans un premier temps. Une partie va servir pour le projet et une partie c'est pour l'administration locale et spécifiquement dans les services qui ont pour mission la mobilisation de recettes au niveau de province. Et ces travaux continuent en ces jours. C'est vrai que ça n'a pas été facile, vous l'avez épinglé dans votre mot d'introduction. Nous avions des ambitions de faire beaucoup plus, parce que oui. Nous avons 14 territoires sur lesquels on devait travailler. Mais malheureusement, à ces jours, nous avons 8 territoires qui sont occupés sur les 14 prévus par le projet. Et dans le 8 territoires, nous avons des difficultés de pouvoir accéder. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer à travailler, comme je viens de le dire. Dans la ville de Goma, les bâtiments administratifs, ils continuent. Dans la ville de Bukavu, même. Et les 34 infrastructures dont je viens de parler tout à l'heure, 34 infrastructures, continuent. Et ça sera livré le mois prochain. Et nous allons commencer 88 autres infrastructures à partir du mois prochain, du mois de septembre. Donc, c'est pour dire que le projet Starrest, malgré les difficultés, nous n'avons pas croisé le bras. Nous avons continué à travailler et nous continuons à travailler. Nous sommes en train d'appuyer aussi, les administrations. Nous avons tout un service qui a été recruté pour pouvoir relever les difficultés dans les administrations locales, dans la province de l'Ituri, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu aussi. Mais ici, nous devons préciser qu'au niveau du Nord Kivu, nous sommes en train de travailler à Beni, concrètement. C'est là où le gouvernement national a encore la même mise. Et au niveau du site Kivu, nous sommes à Uvira. Mais nous devons préciser pour ce qui concerne le site Kivu, nous avions eu des difficultés parce que sur les 6 territoires dans lesquels nous devions travailler au niveau du site Kivu, il y a 4 qui sont occupés et le 2, nous n'avons pas la facilité d'accès pour pouvoir y travailler. Mais avec l'autorisation de la Banque mondiale, nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pouvons commencer les infrastructures parce que nous avions dû arrêter, parce qu'il était vraiment difficile de pouvoir acheminer les matériaux pour les constructions et de pouvoir déployer nos équipes pour pouvoir se rendre sur le terrain pour de problèmes évidents que nous connaissons
voilà,
tous.
Vous avez évoqué les problèmes de sécurité. D'ailleurs, à ce sujet, Mme Bougette Kapinga, il y a par exemple Georges Kilangalanga qui nous écrit depuis Bunyanituri, l'état d'exécution du projet Star S est d'après lui est très faible malgré les défis sécuritaires dans une grande partie des provinces d'intervention dans presque tous les volets du projet, réinsertion socio-économique des ex-combattants, soutien aux membres vulnérables, renforcement des administrations, l'impact est minuscule, si ce n'est existant, ça c'est lui qui le dit. Certains ex-combattants nituri qui ont déposé les armes ont repris, faute de soutien alimentaire, notamment à Mambasa. La prolifération des enfants de la rue à Bouni à cause des conflits armés ne bénéficie pratiquement d'aucune infrastructure socio-économique pour réduire leur vulnérabilité. Malgré les défis, le projet devrait se concentrer sur les zones calmes, mais l'impact reste trop timide. Nous espérons des améliorations en attendant la restauration de la sécurité. Une autre réaction, c'est Baraka Godefroy qui nous écrit, il est étudiant de l'ISTEM Niakoundé à Bounia. Concernant l'état d'exécution du projet Star S, il faut reconnaître les avancées réalisées dans certaines zones, mais la persistance de conflits armés, surtout l'occupation par les M23 Nord Kivu, aussi le Kivu bloque sérieusement sa mise en œuvre. Voilà, là, il rejoint ce que vous avez dit, concernant l'état d'exécution du projet Star S. D'après lui, il faut reconnaître les avancées réalisées dans certaines zones, mais la persistance des conflits armés, surtout l'occupation par les M23 Nord Kivu aussi que vous bloquez sérieusement sa mise en œuvre, vous l'avez souligné. Cela crée une double injustice. Les populations sont victimes des violences et privées des bénéfices d'un projet qui devrait améliorer leurs conditions. Comment vous réagissez par rapport à ces réactions? Parce que là, ce sont les populations qui sont vulnérables et qui devaient en principe bénéficier de ce projet.
Là, je suis tout à fait d'accord avec la préoccupation des auditeurs. C'est vrai que les conditions de travail ne sont pas aussi faciles que ça. D'abord, ce que vous devez savoir, je l'avais évoqué lors de mon introduction, ce que le projet Starest, c'est le premier projet décentralisé qui avait sa coordination générale au niveau de la province et précisément à Goma. Avec ce qui s'est passé à Goma, toutes nos équipes ont été démobilisées. Donc, on devait tout chercher le voisin moyen pour pouvoir les réorienter ailleurs. Pouvoir nous déployer ailleurs, d'abord commencer d'abord par sécuriser les personnels, voir comment le déployer ailleurs et voir maintenant comment relancer les activités. Et tout cela nous a bloqué pendant pratiquement 4 mois. On devait chercher d'abord avoir l'accord du gouvernement congolais, avoir l'accord de la Banque mondiale pour le déploiement de nos staffs dans d'autres provinces, notamment à Nituri, et pouvoir revoir notre stratégie d'intervention sur le terrain. Parce que, comme vous le savez, un seul dollar qu'on peut utiliser dans les conditions qui ne sont pas prévues par la banque, c'est un dollar peut bloquer le projet. Et non seulement le projet, ça peut bloquer toute l'enveloppe de la RDC au niveau de la Banque mondiale. Ce qui veut dire que, avant de se lancer, c'est dire on peut se déployer de cette façon ou de cette autre, il y a de préalables. Et tous ces préalables, c'est ce qui nous a pris pratiquement 4 mois pour qu'on arrive à pouvoir encore se redéployer sur le terrain, pouvoir voir comment redéfinir nos stratégies d'intervention sur le terrain et tout ça. Donc, ça n'a pas été facile. Je profite de ces micros pour pouvoir féliciter d'abord toute mon équipe pour sa résilience, parce que je vous assure que ça n'a pas été facile de pouvoir travailler dans les conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Dernièrement, je dis à quelqu'un, là où nous travaillons, nous sommes en train de travailler, l'espérance de vie est de 24 heures renouvelable. Parce que chaque matin, quand vous êtes sur le terrain, vous ne savez pas, il y aura incursion, il n'y aura pas. Il y aura des problèmes, il n'y aura pas. Et chaque soir, quand vous rentrez, vous bénissez les seigneurs. C'est pas facile. Mais je dis merci au deuxième auditeur qui reconnaît quand même les avancées que le projet est en train de faire. C'est vrai que nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Les défis sont assez nombreux. La population attend beaucoup de ces grands projets. Mais les conditions sécuritaires.
Donc vous insistez beaucoup par rapport aux conditions sécuritaires.
J'insiste parce que c'est impossible que nous puissions déployer les gens sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Il y a seulement 5 jours, on a pillé un de nos chantiers. Ce sont des risques que nous prenons. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Mais quand il y a des incursions comme ça, s'il y a de morts, le projet peut s'arrêter. Donc, avant de pouvoir s'élancer, nous devons nous rassurer qu'en prenant telle décision, il y a tous les paramètres qui ont été optimisés sur la sécurité. Sans sécurité, il est presque impossible de pouvoir travailler. Il est presque impossible. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le 8 territoires restants. Et bon, nous fournissons des efforts parce que la population ne peut pas être victime deux fois. Premièrement, elle est victime des conflits armés. Et deuxièmement, elle sera victime de ne pas accéder aux infrastructures. Et ça, il en va de notre responsabilité en tant que projet. Mais seulement, je le dis encore une fois, si les conditions ne sont pas réunies pour permettre à ce que nous puissions travailler dans la sécurité optimale, il nous est impossible de pouvoir travailler.
Alors, Madame Brigitte, avant d'ouvrir le standard, rapidement, cette préoccupation, vous avez dit que c'est un projet financé par la Banque mondiale, le décaissement a été déjà fait. Alors, avec tout ce qu'il y a comme un retard dû à l'insécurité dans certaines parties du pays, ça peut impacter négativement sur la poursuite du projet, parce que c'est un projet qui doit prendre fin, j'imagine, au mois de décembre 2027.
Exactement. C'est vrai que nous avons des répercussions sur le décaissement. Parce que comme vous le savez, la Banque mondiale, c'est une banque. Donc quand ils prêtent l'argent dans un pays, ils s'attendent à ce que l'argent puisse être utilisé à bon escient et qu'au moment imparti, le gouvernement puisse avoir utilisé tout l'argent mis à sa disposition. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les conditions qui ne sont pas assez acceptables, optimales, pour nous permettre à ce que nous puissions mobiliser les ressources correctement et pouvoir les utiliser. Néanmoins, il y a eu quand même avancement avec l'appui de la Première ministre, parce que au mois de juin 2024, j'avais été reçue par Son Excellence le Premier ministre, avec qui nous avons discuté sur le projet. Elle avait été émerveillée de voir quand même les avancées qu'on commençait à avoir, et elle avait demandé à son temps de pouvoir amener la même expérience dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna et dans d'autres provinces dont les Kwilu, les Kwango avec le phénomène Mobondo, dans les Kasai avec les Kamuina Sampu et dans le Bandundu avec ce qu'on appelle les conflits oubliés des Bundu Dia Congo. Et elle avait saisi au mois de novembre 2024, elle m'a encore reçu cette fois-là avec la Banque mondiale et elle a réitéré encore sa demande. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement congolais a saisi officiellement la Banque mondiale pour qu'elle puisse accepter que le projet puisse travailler aussi dans la ville de Kinshasa.
Ça permet de compenser, hein?
Exactement. Ça permet de compenser parce que, comme vous le savez, c'est un crédit. Et un crédit, quand il est sorti, il doit être utilisé à bon escient. Et ici, j'en profite aussi pour dire pourquoi les Kuluna. Parce que, en fait, le Starest n'a pas pour ambition de pouvoir désarmer le champ. C'est pas dans la mission de Starest. Parce que souvent, on confond le Starest avec le PDDRCS. Le Starest n'a pas d'ambition de pouvoir amener les gens à être démobilisés ou même désarmés. C'est pas la mission de Starest. Nous avons des structures telles que le PDDRCS, nous avons la MONUSCO, nous avons les autres partenaires qui appuient ces éléments-là. Maintenant, le Starest intervient à partir de quel moment? C'est quand les anciens combattants, parce que le public cible, dans la cible du Starest, nous avons 12 000 personnes directement concernées par le projet, qui seront touchées directement par le projet. Et au final, nous aurons 3 300 000 personnes de façon indirecte. Dans les 120 000 personnes, il y a 25% qui doivent provenir de groupes armés. Et pour nous, nous avons le partenaire qui travaille en amont sur le désarmement, leur démobilisation, ils rentrent dans la communauté. C'est à partir du moment où ils rentrent dans leur communauté qu'ils sont maintenant appuyés par le Star Est qui va leur donner du travail Et ce travail va leur permettre de se prendre en charge et de pouvoir faire des activités génératrices de revenus.
Voilà, c'était bien de préciser tout cela. Et quand vous avez parlé de ces conflits à oublier, je pense que vous avez cherché à parler de Bundu Congo, dans les Congo central.
Exactement, c'est ce que je dis.
Congo central et de Mobondo, peut-être dans le...
Non. Mobondo, c'est dans le Kwilu, les Kwango.
Et les Bundu Congo,
c'est Bundu Congo, c'est ce que nous appelons les conflits oubliés. C'est dans le Congo central.
Congo central, voilà.
Exactement.
Voilà, il fallait préciser tout ça.
J'avais précisé.
Voilà. Et voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui de l'état d'évaluation, plutôt de l'évaluation de l'état d'exécution du projet Star Est avec Madame Brigitte Kapinga, qui est la coordinatrice nationale de ce projet. Si vous voulez intervenir, composez 09-756-80-79.
Parole aux auditeurs.
Bon, nous avons déjà Jérémy Mamba qui nous appelle de Lubumbashi, Blaise Saïd qui est à Kisangani et Gaston Ngandou qui est à Kinshasa. On y va avec Jérémy depuis Lubumbashi. Jérémy Mamba, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Certes, il faut saluer, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, de Star Est dans cette partie orientale, parce que la mission noble est celle, n'est-ce pas, de la stabilisation, ainsi des relèvements, n'est-ce pas, de l'Est de notre pays. Alors, il est évident aussi que les bénéficiaires symboliques est bel et bien les gouvernements congolais. Cependant, les bénéficiaires providentiels et matériels, c'est bel et bien la population. C'est la population qui doit, en fait, être la consommatrice finale. Alors, qu'est-ce qu'elle attend, c'est concrètement cette population? Mais ce sont les infrastructures au diapason, n'est-ce pas, de ce gros montant, n'est-ce pas, reçu de la part de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement. Mais la question que l'on puisse poser, parce que la population est de savoir, est-ce que a-t-elle été servie? Si oui, chapeau bas au gouvernement. Mais à ce que je sache, avec la triste escalade à laquelle on a assisté dans cette partie, j'ose croire que les avancées n'ont pas été vraiment signifiantes. Alors, je voudrais dire ceci. Pour stabiliser et relever l'Est de la RDC, il est également nécessaire de combiner des solutions à la fois politiques, sécuritaires, humanitaires, de développement. Je l'ai dit en conséquence des causes. Parce que vous ne pouvez pas relever un coin comme celui-là en proie des atrocités sans qu'il y ait des solutions politiques et diplomatiques. Parce que avec ça, nous aurons un point focal, c'est les dialogues inclusifs avec tous les groupes armés opérant illégalement dans cette partie, y compris ceux-là qui ont déposé les armes, afin de trouver des solutions durables aux griefs et voire même aux revendications. Une autre solution attendue, c'est la solution sécuritaire. Lorsqu'on parle de cette résolution, la solution sécuritaire, cela doit passer par le renforcement, n'est-ce pas, des forces armées. Les former, n'est-ce pas, par exemple, et équiper nos forces armées congolaises pour qu'elles arrivent au moins à assurer la sécurité de manière efficace et respecter les droits humains. On ne construit pas, on ne stabilise pas, on ne relève pas un coin sur fond de guerre. Dans ce climat, rien ne peut se faire. Un autre point, c'est le renforcement de la gouvernance. Vous savez, pour que le fonds aboutisse aux réalisations, il faut qu'il y ait l'orthodoxie dans la gestion. Il faut lutter contre la corruption qui reste, jusqu'à la preuve du contraire, un registre adoré et caressé par plusieurs dirigeants. Ça, c'est les exemples, l'expérience nous donne toujours raison. Et il faut aussi améliorer la transparence et la reddition des comptes dans la gestion des ressources, y compris les fonds affectés, en guise de restaurer également la confiance envers l'État congolais. Un autre point très important, c'est la coopération régionale. N'oublions pas que nos confrères qui souffrent, nos compatriotes, c'est parce que la coopération régionale manque son existence. Le Rwanda, l'Ouganda et tous les pays qui nous environnent, vous savez, ont les yeux sur notre pays. C'est pourquoi je préfère qu'il faut encourager la coopération régionale, notamment dans les cas de mécanismes de paix et de sécurité existants, avec comme point focal aborder les causes profondes des conflits et voire même essayer d'extirper ceux-là qui soutiennent donc les pays étrangers qui soutiennent les rebelles qui œuvrent dans notre pays. Un autre point qu'il faut relever, c'est que il y a aussi le problème, donc c'est-à-dire la problématique des solutions humanitaires. Ça, c'est un cas vraiment très compliqué. Vous voyez? Parce que si on arrive à garantir un accès humanitaire sans entrave de cette population, alors nous allons voir que nous allons réussir. Parce que l'exemple nous donne beaucoup de coins. Par exemple, la guerre qui a existé à Kamouna-Sapou a retardé cette province.
Jérémy, on comprend. Et s'il vous plaît, Jérémy, donc face à tous ces défis sécuritaires, en résumé, vous pensez qu'il est, en tout cas, il y a beaucoup du mal à mettre ce projet en œuvre. Donc il faut trouver des solutions par rapport à ces conflits liés à la sécurité dans l'est du pays pour mener à bien ce projet. Merci, Jérémy Mamba, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Blessé, dit vous êtes à Kisangani. On vous écoute, Blessé. Vous avez la parole.
Oui, merci, cher Marcel. Bonjour à Madame Brigitte Kapinga. Cher Marcel, aujourd'hui, je devrais demander à Madame Brigitte que, au regard de la situation d'évaluation de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, bref, le TAREC, la ville de Kisangani, la province de la Tchopo, se trouve à l'Est. Là, il faut noter. Puisqu'on ne doit pas seulement parler de l'Est en prenant le Nord et le Sud Kivu. Si vous regardez bien la carte géographique de la RDC, la Tchopo, c'est à l'Est. Aujourd'hui, on regarde des stabilisations et relèvements. Il y a aussi les problèmes communautaires. La fois passée, on avait félicité le gouvernement congolais pour mettre le calme dans la gestion communautaire, les conflits communautaires entre les Mbole et les Lengola. Je pense aussi que dans cette situation, lorsqu'il y a les conflits communautaires, il y a manque de paix dans le pays. Mais à moi, cher Marcel, le projet Star Est est conçu comme un levier de stabilisation et de résilience communautaire dans les provinces de l'Est. Avancer de manière contestée. Cher Marcel, du point de vue institutionnel, ces structures de gouvernance et de pilotage sont en place et des composantes prioritaires, notamment la protection et la lutte contre
Blessed, s'il vous plaît, puisqu'il faut avancer, oui. Votre préoccupation, c'est celle de savoir pourquoi ce projet, on parle de l'Est du pays, mais Kisangani, qui est aussi une ville de l'Est du pays, n'est pas concerné. Voilà, je pense qu'on a compris, c'est ça votre préoccupation. Merci, Blessed, d'avoir appelé depuis Kisangani. Il faudra qu'on avance. Cette fois-ci, on va écouter Maître Gaston Gandou, qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Gaston, vous avez la parole.
Merci Marcel. Je salue aussi notre invité. Nous suivons l'évolution de ce projet depuis août 2024.
Oui.
Et nous pensons que c'est un projet qui n'a pas de durée, hein, si madame peut me contredire quant à ça. C'est un projet apparemment qui n'a pas de durée. Et pourtant, tous les projets financés par la Banque mondiale ont toujours eu des durées bien déterminées.
Nous l'avons dit, Maître Gaston, peut-être vous nous avez pris en cours, nous l'avons dit, ça s'est clôturé, ça prendra fin au mois de décembre 2027.
C'est ça.
D'accord, c'est pas grave. Alors.
D'accord.
Et puis, moi je pense que c'est un projet qui vise à stabiliser, vous savez quand on parle de stabiliser, c'est à l'Est là-bas, il y a des coins qui nécessitent la stabilisation, les projets devraient aussi se focaliser à ces coins-là pour d'abord stabiliser, ça signifie mettre fin à la guerre et puis relever si possible la population, tout ce qu'il y a comme développement. Mais comme la guerre persiste, moi je trouve mal que le projet qui a débuté en août 2024 et aujourd'hui on a quelques mois, madame puisse nous balancer tout ce qu'il a balancé comme réalisation et c'est aussi à vérifier si réellement c'est fait sur terrain. Et je pense que les zones comme les Goma, les trucs comme ça, qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement, étant donné que c'est le projet du gouvernement, il ne faut pas faire des choses là-bas. Parce que quand vous faites, par exemple, une salle qui va servir à recouvrer les fonds de l'État. Ces fonds-là vont profiter à qui? Je pense aux rebelles. Ça, ce n'est pas aussi... Moi, je ne trouve pas bonne chose dans cette manière de faire les choses-là. Et puis, pour finir, je pense que madame a tout intérêt, en ce qui concerne la complexité du processus du projet, de prendre compte des défis qui sont liés à l'insécurité, mais aussi à l'accès aux zones reculées, mais aussi aux tensions, tensions sociales. Et nous pensons qu'une approche adaptée au contexte local, tenant compte des spécificités de chaque zone d'intervention, est essentielle pour maximiser l'impact du projet et assurer sa pérennité.
Voilà, merci.
Voilà les quelques choses que nous pouvons dire jusque-là.
Voilà, merci, Maître Gaston Gandou, depuis Kinshasa. On va retourner à Lubumbashi pour écouter Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour à l'invité, madame, et à tous les auditeurs de la Radio Capi. J'avoue d'emblée que j'ai essayé de comprendre un peu l'existence depuis quand le projet existe. Et j'avoue également que sur terrain, je n'ai pas eu souvenance d'avoir vu les projets continuer ou impacter les vies. À moins que madame la coordonnatrice puisse nous prouver le contraire. Et j'ai relevé le fait que peut-être, je l'ai toujours dit pour beaucoup de projets, beaucoup de gens pensent, et même en ciblant certaines provinces, ce n'est pas suffisant. Il faut également communiquer sur le projet, par exemple. Que même ceux qui sont dans les Katanga, qui sont dans les Grands Kasaï, par exemple, puissent également sentir que oui, il y a un projet financé par la Banque mondiale qui existe, qui est ciblé sur telle province ou telle région, et ça existe. Cela pourrait permettre également la dynamique du changement ou l'impact de la Banque mondiale ou des projets financés par la Banque mondiale. Et nous pouvons également avoir une autre image de ce que fait la Banque mondiale en termes de développement dans notre pays. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont une mauvaise image de la Banque mondiale, par exemple, des institutions de Bretton Woods. Mais cela également, je relève que cela est dû au manque de la communication ou d'informations suffisantes également sur ce projet. Comme dans les cas d'espèces, par exemple, même dans le Nord Kivu, et en parlant avec nos amis qui sont dans les forums, vous allez comprendre que même ceux qui sont au Nord Kivu, qui sont au Sud Kivu, c'est pas moi, Maniema et autres, ne sont même pas informés de ces 10 projets. Alors, nous dit, si eux qui sont dans les projets, qui sont dans les provinces ciblées par les projets, ne sont pas informés, à combien plus forte raison nous qui sommes dans les Haut-Katanga, par exemple, nous qui sommes dans les Kasaï, dans les Bandou, et que sais-je encore. Donc, c'est un défi majeur s'il peut y avoir également un plan de communication. Et je pense que de tels projets également, on devait prévoir des montants suffisants pour permettre la communication des projets passés à la Radio Capi, d'autres chaînes, et des experts qui peuvent essayer de propulser les projets également. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, oui. Je voudrais un peu avoir de manière objective l'analyse ou l'évaluation à mi-chemin ou à mi-parcours. Aujourd'hui, madame la coordinatrice du projet, combien pouvez-vous coter les projets dans la mise en œuvre également? Est-ce à 50%? Est-ce à 70%? Est-ce à 80%? Ou est-ce à 20% ou à 10%? Et si c'est à 20% à échec ou mitigé, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez fait face et quelles sont les suggestions que vous, en tant que coordinatrice et gérant les projets, vous pouvez préconiser à la Banque mondiale et au gouvernement pour la mise en œuvre de ces projets? Parce que dans les contenus, c'est un projet qui parle souvent des infrastructures et nous avons un problème d'interconnectivité des provinces, des villes, des communes et même des pays avec les CAF et tout ça. Mais je pense que si ces projets étaient mis en œuvre, ça pouvait permettre le développement de ces contrées et on pouvait également parler d'autres provinces également. Malheureusement, nous sommes désolés pour ça.
Voilà, merci Maître Patrick Odia d'avoir appelé. Depuis Lubumbashi, on va donner l'occasion à notre invitée, Madame Brigitte Kapinga, de réagir par rapport à toutes vos préoccupations. Madame, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup Monsieur Marcel. Merci à tous les intervenants. Je remercie spécifiquement M. Jérémy Mamba, à partir de Lubumbashi, qui nous a parlé. En fait, c'était plutôt des apports qu'il a donnés plutôt que de questions. C'est vrai que nous sommes un projet de stabilisation, mais ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, dans la conception du projet, lors de la conception du projet, la situation sécuritaire à l'Est n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à ces projets. À l'époque, au niveau du Nord Kivu, il y avait des problèmes que au niveau de, d'un seul territoire, c'était le territoire de Masisi. On n'avait pas de problème dans Rutshuru. On n'avait pas de problème dans d'autres territoires, ni à Walikale. Et donc, quand on a pensé à un projet de stabilisation et de réinsertion communautaire, c'était dans un contexte de post-conflit. Ce n'était pas dans le contexte du conflit. Le conflit est venu trouver, enfin, le conflit s'est amplifié alors que le projet avait déjà commencé sa mise en œuvre. Ce qui a fait qu'on a connu tout le problème qu'on a connu et qu'on est en train de connaître jusqu'à aujourd'hui. Mais il a parlé de quelque chose qui est très important, c'est par rapport au renforcement de la gouvernance. C'est vrai qu'en amont, il a parlé des solutions politiques, solutions diplomatiques. Ça dépasse l'entendement du projet, ça dépasse les objectifs du projet. Mais par contre, parmi les solutions qu'il a pu donner, il y a une solution dont il a parlé, c'est le renforcement de la gouvernance. Et ça, c'est la composante 3 du projet Star-Est, qui est intitulé « Gouvernance décentralisée », avec 3 sous-composantes dans cette composante, dont la première sous-composante, c'est le renforcement de la collecte des revenus générés en interne. J'en ai parlé lors de l'introduction à la matière. La deuxième sous-composante, c'est l'amélioration de la gestion budgétaire et comptable. Et ça aussi, c'est un élément capital, parce que beaucoup de provinces dans lesquelles nous travaillons, il y a un problème de budgétisation. On pense que le budget, c'est tout simplement, c'est dire, voilà, on a besoin des X francs congolais pour mener tel X action. Et on a terminé avec la budgétisation. Or, la budgétisation de toute une province, ce sont des éléments complexes. Et le projet Star-Est renforce les compétences de gouvernement provinciaux en cette matière-là. Et la troisième sous-composante dans cette composante qui est la gouvernance décentralisée, c'est un rapport à l'accroissement de la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources de province. Et pour ce faire, nous allons travailler avec la Cour de compte. Pour la reddition de comptes, nous renforçons les capacités des assemblées provinciales pour qu'elles puissent mener à bien sa mission de contrôle. Et ça, c'est dans les objectifs du Star-Est. Mais pour le reste, pour tout le reste, ça ne rentre pas entre autres la politique, entre autres la diplomatie, ça dépasse le cadre du Star-Est. Et si nous allons chez M. Blaise Saïdi qui nous a appelé depuis la ville de Kisangani, il a posé la question, Kisangani se trouve à l'est de la République et donc devait bénéficier de ces projets. Et d'entrée de la matière, j'avais dit que le projet Star-Est, c'est le premier projet décentralisé. Donc la conception de ces projets, qui est une exception, n'est pas venue du gouvernement central. C'est venu des 3 gouverneurs qui se sont rendus jusqu'à Washington pour demander à la Banque mondiale de pouvoir financer. Il s'agit du gouverneur du Nord Kivu, du gouverneur du Sud Kivu et du gouverneur de l'Ituri. Ce sont les 3 gouverneurs qui ont posé les problèmes auprès de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a répondu favorablement. Et là, j'en appelle aux gouvernements provinciaux de pouvoir être proactifs. Parce que ce sont les gouvernements provinciaux qui travaillent avec les communautés, qui connaissent les problèmes réels de ces communautés et qui peuvent toquer à la porte de la banque. Bien sûr, ils peuvent poser le problème, mais ce problème sera porté par le ministre en charge de finances, qui est le gouverneur résident tel qu'on l'appelle au niveau de la Banque mondiale, et qui va porter ses demandes au niveau des provinces auprès de la Banque mondiale. La Banque mondiale ne conçoit jamais un projet. Elle répond aux demandes de gouvernement. Et ici, pour ce qui concerne les Star-Est, ce sont les 3 gouvernements provinciaux. Voilà,
c'est bien de le préciser.
Et là, je vais maintenant répondre à maître
Patrick. C'était très important qu'il insistait sur le plan de communication. Il dit que vous
continuez. Oui, il a vraiment insisté sur les plans de communication, mais c'est Patrick Odia et nous vous en remercions sincèrement. Mais il y avait d'abord la question de M. Gaston Gandou,
oui, rapidement, parce que
de Kinshasa qui a parlé de la durée, là vous aviez répondu,
oui.
Et il a dit le projet devra mettre fin à la guerre, c'est pas dans ses ambitions ni dans ses objectifs, il n'a ni moyens ni capacité de pouvoir le faire. Le projet travaille pour les populations vulnérables qui ont été affectées par la guerre, et ça c'est une précision en détail, et c'est ça les ambitions du projet, pour pouvoir leur donner deux moyens. D'abord, qu'ils puissent accéder aux infrastructures socio-économiques de base. Il a dit qu'il doute même que ça a existé. Monsieur, nous sommes au 21e siècle avec la technologie. Je pourrai vous partager dans les jours qui viennent. Nous avons le Kobo Collect, qui est un outil qui permet de pouvoir voir les activités que nous sommes en train de faire. Et c'est mis à la disposition du public. Donc, chacun peut pouvoir entrer et pouvoir voir ce que réellement nous sommes en train de faire. Ça sera vraiment une aventure de mauvais goût que nous puissions nous présenter devant les auditeurs pour des choses que nous ne faisons pas. Et surtout qu'il y a la Banque mondiale qui fait les suivis du projet et qui, chaque 3 mois, fait l'évaluation du projet pourra nous contredire, et c'est un acte très grave. Donc je peux vous rassurer, Monsieur Gaston Gandou, que tout ce que nous disons ici est vérité et vérifiable. Et là, je m'en vais voir Monsieur Patrick Odia. Monsieur Patrick Odia, merci beaucoup parce que vous avez insisté sur un plan de communication. Je pense que nous avons commencé à les faire. C'est vrai, les conditions dans lesquelles nous travaillons à l'Est, ça n'avait pas été facile. On avait des difficultés pour pouvoir aller dans le média, pouvoir parler du projet pour des raisons évidentes. Mais désormais que nous sommes basés à Kinshasa, Monsieur Patrick Odia, je pense que nous allons rendre compte au moins chaque mois pour vous donner les avancées du projet. Et ça sera via le voie de communication.
C'est déjà parti, hein, c'est déjà parti avec la Radio Capi. Alors permettez, madame, de lire rapidement quand même des réactions, les condensées, de ce que nous a proposé Jules Feza Bogonda. Il y a, en tout cas, ceux qui sont favorables, qui disent que ces projets perçus comme initiatives salutaires indispensables pour répondre aux besoins vitaux des populations de l'Est, réinsertion socio-économique, infrastructure, amélioration de la gouvernance et cohésion sociale. Ils reconnaissent des avancées dans les zones accessibles, estiment que malgré les défis sécurité et administratif, le projet doit se poursuivre et s'adapter au contexte local, notamment en impliquant davantage les structures communautaires. Voilà, c'est le cas. En tout cas, c'est ceux des avis, hein, des Amos, Gaston, Baraka, Toumaini, Dr Batouni, Melchior Bahati, Patrick Ekitebi et Benjamin Malia. Voilà, tout bien sûr, il y a également ceux qui pensent défavorablement. C'est, par exemple, ils disent que le projet n'a pas d'impact et pointe l'insécurité, notamment à cause du contrôle du M23 comme frein insurmontable à sa réussite. Là, c'est Georges Kilarlang qui le pense, Caleb, Mousseba, Grégoire Kabangou, Maître Chimanga, Blessé, dit Wakasi Gilbert, et puis Dunia Mouigirwa. On ne peut pas vous citer tout le monde, et comme toujours, il y a également des avis neutres qui disent, qui pensent que, pour l'instant, le bilan est mitigé. Voilà, rapidement, Maître Patrick Odiavi cherche à savoir, vous pouvez évaluer le projet à 20 à 30%, et puis on va rapidement écouter d'autres auditeurs pour conclure. Vous évaluez à combien?
En tout cas, vu le contexte, oui. Parce que l'évaluation, on ne doit pas le faire au hasard. Nous devons faire l'évaluation vu le contexte, parce qu'il y a d'autres projets qui ont été dans le même contexte que nous, mais qui ont fermé les portes. Mais nous n'avons pas fermé, malgré la situation très compliquée.
Et l'évaluation,
nous avons continué.
Vous voulez pas,
je peux évaluer à 30%.
À 30%, voilà. C'est bien quand même d'avoir ce courage de le dire. Alors permettez, on va prendre le dernier auditeur et puis on va conclure avec vous. Allez aussi dire un mot par rapport à Kinshasa. Voilà, on va prendre le dernier. On a plus assez de temps. Le temps coule vite. Nous avons Georges Kilangalanga qui nous appelle de Bounia et Malonga qui abandonne nos villes. Georges Kilangalanga, je vous accorde une minute rapidement. Presque tout a été dit par rapport à ce projet. Qu'est-ce que vous avez ajouté vraiment rapidement, en une minute?
Oui, monsieur Marcel, bonjour.
Georges, allez-y déjà droit au but parce qu'on doit gagner du temps. Bonjour, c'est bon, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne. Alors, on prend le tout dernier. Malonga, vous, j'espère que vous êtes là.
Oui, je suis ici, Antoine Marcel.
Voilà, en une minute, bon, Malonga. Allez-y, ouais, une minute, oui.
Oui, je viens de suivre madame là-bas. En tout cas, il nous explique très bien. C'est la réponse des demandes des 3 gouverneurs. Oui. Merci beaucoup. Et ce projet est là pour soulager les personnes vulnérables à ces contrées-là. Est-ce que réellement la Banque mondiale aussi fait suivi pour comprendre et pour certifier vraiment que c'est à l'avantage de ces personnes-là vulnérables?
Voilà, Malonga, s'il vous plaît, vous voulez savoir si la Banque mondiale fait les suivis. On n'a plus assez de temps. Madame va réagir rapidement et certainement, elle a promis, elle reviendra par rapport à ce projet dans d'autres émissions. Là, c'était juste une première entrée en matière. Voilà, Madame, rapidement, s'il y a le suivi par rapport à la Banque mondiale pour ce projet. Et vous allez rapidement parler de Kinshasa.
Absolument. La Banque mondiale ne peut pas mettre son argent comme ça et ne pas faire le suivi. C'est impossible et même impensable. Effectivement, nous avons d'abord le suivi quotidien de la Banque mondiale. Donc, nous avons le responsable du projet qui est M. Daniel Owen, suivi de Madame, accompagné par Madame Lisette Condé, qui font le suivi chaque jour. Mais nous avons ce que nous appelons la mission de supervision. Et la mission de supervision est faite chaque 3 mois. Et il n'y a pas que la Banque mondiale. Cette mission de supervision est accompagnée par le gouvernement congolais. Donc chaque 3 mois, nous sommes sur le terrain avec la Banque mondiale, avec le gouvernement congolais, avec les divisions qui sont impliquées dans la mise en œuvre de ce projet pour voir les réalisations de ces projets. Donc sur ces points-là, qui est apaisement. Pour Kinshasa, comme j'ai allé dire, nous avons eu la demande de Madame le Premier ministre. Et le gouvernement, via le ministère de Finances, a répondu favorablement à cette demande-là, a introduit la demande au niveau de la Banque mondiale. Mais nous avons des difficultés. La difficulté, c'est que, comme j'ai allé dire tantôt, il n'y a pas un ministère qui gère le projet Starest. Le projet Starest, en tant que projet décentralisé, travaille directement avec les gouvernements provinciaux. Et pour ce qui concerne Kinshasa, nous avions prévu, si le budget va le permettre, de pouvoir faire 60 kilomètres de route dans la ville de Kinshasa, dans le quartier démuni, spécifiquement dans les quartiers qui ont beaucoup de problèmes, des Kuluna. Parce que comme je y allais dire, pourquoi nous devons intervenir à Kinshasa? À Kinshasa, nous voulons intervenir tout simplement pour pouvoir donner du travail d'abord, premièrement, aux Kuluna, pour qu'ils puissent diminuer leur capacité de nuisance auprès des paisibles citoyens, alors on a du travail. Et ce travail, c'est pouvoir réhabiliter les routes qui sont à délabrement très avancées dans les communes, qui sont les communes de Bumbu, les communes de Kinshasa, toutes les communes où nous savons qu'il y a pléthore de Kuluna. Mais il y a aussi un élément dans lequel, qu'on n'a pas parlé. Bon, c'est vrai que le temps nous imparti est vraiment assez limité. On y reviendra. Oui. C'est par rapport à tout ce que nous connaissons comme violence sexuelle et violence basée sur le genre. Et au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons l'autre phénomène qui est en train de rejoindre le phénomène Kuluna. C'est par rapport à toutes ces petites filles, ces filles mineures qui sont en train de se prostituer pour pouvoir se nourrir. C'est aussi une sorte de violence basée sur le genre. Et dans le cadre du projet Starest, nous avons prévu de pouvoir travailler avec ces filles-là, de pouvoir les suivre, de pouvoir leur donner le moyen de pouvoir se faire des activités génératrices de revenus pour qu'elles ne puissent pas utiliser leur corps comme marchandise, comme moyen de survie. Et pour le moment, nous sommes en attente de l'audience avec son excellence, monsieur le gouverneur de la ville. Comme c'est un projet décentralisé, c'est au gouverneur de nous dire où est-ce que nous pouvons travailler, qui seront nos interlocuteurs, mais ça va nous faire 3 mois que je suis en attente de l'audience. Et j'espère que son excellence, monsieur le gouverneur, pourra écouter ces messages, et c'est un cri d'alarme.
Voilà.
On va dire que le projet, excusez-moi, mais c'est celle que je veux terminer,
ouais.
On va dire que le projet ne fait rien, mais il y a 120 millions que nous, le projet a mis à la disposition de la ville de Kinshasa pour pouvoir travailler, réhabiliter certaines routes, mais nous attendons que nous soyons reçus par le gouverneur pour qu'il nous donne ses orientations que nous devons suivre.
Voilà, j'espère que c'est bien entendu, hein. En tout cas c'est tombé dans les bonnes oreilles, hein. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, ou ses collaborateurs, vous avez entendu ces cris d'alarme de Madame Bougie de Kapinga, relative du projet Star Est pour ce qui est de la ville de Kinshasa. Voilà, on va s'arrêter par là, Madame Bougie de Kapinga. Je rappelle que vous êtes coordinatrice dans le soir du projet Star Est. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci, monsieur Marcel. Merci à tous les auditeurs de la radio Capi. À très bientôt.
À très bientôt. Merci à toute l'équipe de production, Debs Vita, Julie Feza, Bongonda et Meshak Mbouta, Mouto Micro. C'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro des Paroles aux auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.